L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
C'est ça. Aujourd'hui, l'enseignement, c'est le langage de la victoire. Et je pense on va être stimulé dans notre foi concernant le langage qu'on peut avoir spirituellement. Puis juste avant de prier, j'aimerais ça qu'on... Juste avant d'aller à la parole, j'aimerais ça qu'on prie, qu'on puisse vraiment se placer spirituellement devant Dieu pour que Dieu nous enseigne ses voies. Seigneur Dieu, on vient devant toi encore, puis Seigneur, on veut te donner ce temps dans la parole. Seigneur, je te prie que tu nous donnes des révélations, que ton esprit de sagesse, de révélation vienne sur nous et vienne nous éclairer, Seigneur. S'il y a des choses dans nos vies qu'on manque ou s'il y a des choses, Seigneur, qu'on doit apprendre juste pour se positionner davantage, Seigneur, dans tes voies, je te prie que tu le fasses aujourd'hui. Donne-nous, Seigneur, des oreilles pour entendre, Seigneur, ce que l'Esprit de Dieu dit à l'Église ici. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, là, je vais vous dire, j'avais à cœur, et même cette semaine, je pensais à ça, qu'est-ce qui brassait dans mon cœur, c'était vraiment question d'un langage spirituel que Dieu a en réserve pour ses enfants. Mais on peut retourner très loin concernant le langage. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder un petit peu l'histoire de Babel. Vous connaissez l'histoire de Babel, l'origine, l'endroit où toutes les langues ont commencé. Alors, on va tourner aujourd'hui dans Genèse chapitre 11. Puis on va lire 9 versets, Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. Je vais vous lire le texte ici, l'histoire que vous connaissez sûrement, qu'on apprend même à l'école du dimanche quand on est petit. Vous allez voir ici quelque chose que l'homme voulait faire et ce que Dieu a fait par la suite. Donc, dans Genèse chapitre 11, verset 1, ça dit « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar, ils habitaient. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. » Verset 4. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Et vous savez, ici, là, ça s'en allait en directe contradiction avec la parole de Dieu dans Genèse 9, 7, qui disait que les êtres humains devaient justement se disperser. Mais si les hommes, dans un esprit de rébellion, disaient, « Non, on va faire le contraire. Bâtissons-nous un royaume, bâtissons-nous cette tour. » Verset 5, « L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. » Et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. » Donc, vous voyez ici, là, avec une seule langue, quand ils étaient unis dans leur langage, n'importe quoi qu'ils voulaient faire, ils réussiraient à le faire. Parce qu'ils pouvaient communiquer ensemble, ils étaient unis. Au verset 7, « Allons, descendons et la confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre et cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit la langue de toute la terre et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de la terre. Voyez ici, là, les hommes voulaient faire à leur tête, mais finalement Dieu a gagné quand même. Si Dieu les a dispersés quand même en changeant leur langue, leur langage, puis on se dit, mais pourquoi qu'on lit ça aujourd'hui en concernant la langue? Mais c'est très important de voir ici que les êtres humains, eux, étaient rebelles contre Dieu. Puis Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parti toutes les langues du monde cette journée-là à partir de Babel. Et c'est pour ça, des fois, on va dire en anglais « Babel », c'est un même mot qui veut dire « jargon ». C'est l'endroit où toutes les langues ont commencé. Mais c'est à cause d'un esprit rebelle que les êtres humains avaient. Puis aussi, on sait que cette place-là, la tour qui est en train de construire, c'était une tour pour faire des cérémonies religieuses. C'était en fait, il est en train d'élever une religion. Et vous savez, aujourd'hui, on peut penser aussi aux Nations Unies. Vous avez entendu parler des Nations Unies, mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent unir toutes les gens de la Terre. Et puis là, il y a de la traduction, toutes les langues, on écoute ça, on voit ça à la télévision, les gens ont leur micro, puis tous les gens des pays, ils peuvent communiquer ensemble parce qu'il y a des traductions. Mais c'est plus compliqué maintenant depuis ce jour-là. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? C'est un lieu de culte. Donc, le zodiaque, tout ça, vous connaissez un peu l'astrologie. Eux, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? C'était justement, ils voulaient servir d'autres dieux. Et puis Dieu a décidé de changer tout ça. Et c'était l'orgueil de l'homme. Donc, l'unité de la langue et la rébellion de l'homme, ça a commencé là dans Genèse 11. Maintenant, on va voir que Dieu avait un plan, par contre. Parce que si les hommes, s'ils s'unissaient dans un langage, puis ils pouvaient jaser ensemble et faire de quoi, bien, rien n'est impossible pour eux. Mais Dieu veut que rien soit impossible pour nous, l'Église de Jésus-Christ. Alors, on sait que Dieu a fait quelque chose pour restaurer ça. On va voir dans Actes 2. On va aller ce matin dans Actes 2. Vous connaissez le texte que je vais vous lire, sûrement, de 1 à 21. Actes 2, commençons au verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel d'un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Donc ça, c'est une réaction, l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? » Au verset 12, ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se dirent les uns aux autres, « Que veut dire ceci? » Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se prosternant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. » Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. En d'autres mots, il est seulement 9 heures le matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. De ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, ici, on connaît l'histoire de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur tout le monde, et là, les 120 qui étaient réunis là, ont été remplis du Saint-Esprit, et tout d'un coup, il y avait un langage surnaturel. Ils ont commencé à parler un langage surnaturel. Et même si c'était des langues différentes, Dieu a uni les langues par l'Esprit. Et c'est ça que j'ai à cœur de vous partager aujourd'hui. Le langage de la victoire pour nous, c'est le langage de l'esprit. Pas simplement le français, l'anglais ou l'espagnol, peu importe la langue qu'on peut parler. C'est sûr qu'on peut s'unir et traduire et tout ça dans charnel. Dans spirituel, Dieu nous a donné une langue, un langage. Tout le monde, chaque enfant de Dieu a accès à un langage surnaturel. Il faut faire attention des fois parce qu'on peut penser que oui, si nous, on a un langage spirituel, on peut dire « Ah ben moi, je suis plus élevé dans le monde spirituel qu'une autre personne. » Et qu'est-ce que ça a fait souvent dans le monde pentecôtisant, si on veut, là, c'est que les gens qui n'avaient pas reçu l'expérience du baptême de l'Esprit, bien, ils sentaient méprisés par les autres. Ils sentaient comme « Bon, vous croyez que vous êtes d'une classe supérieure à nous. » Et là, ça fait des frictions, puis ça fait le contraire du cœur de Dieu. Dieu, ce qu'il veut, c'est que l'Église de Jésus-Christ soit unie dans l'amour, pas dans l'arrogance, mais unie dans l'amour, mais en même temps qu'on soit équipé avec tout ce que Dieu en réserve pour nous. Et je crois que ce que Dieu veut pour nous, notre noyau ici, c'est que nous sommes tous remplis de l'Esprit à déborder et qu'on puisse tous avoir accès à ce langage spirituel parce que Dieu nous appelle à être des guerriers. Et c'est pas une question de pression qu'on met sur vous. Ça demeure toujours un choix personnel si on veut plus de Dieu. Si on n'en veut pas plus, Dieu ne s'impose pas sur personne. Mais si on est ouvert à ce que Dieu veut pour nous, et on dit « Oui, Seigneur, j'en veux plus. Moi, je crois que Dieu va vous en donner plus. » Et Nous qui sommes ici aujourd'hui, on va s'équiper avec toutes les arts de l'esprit. On va s'équiper avec toutes les choses que Dieu veut pour nous. Puis là, par après, quand on vit des temps difficiles, on va savoir comment prier. On va savoir comment décréter les choses. Mais aussi, le Seigneur va nous inspirer. Et quand on prie dans l'esprit, quand on prie en langue, qu'est-ce qui se passe? On a une sensibilité à entendre la voix de Dieu. Dieu nous donne des fois des choses dans nos cœurs. Il commence à nous parler, puis il nous dirige comme ça. Alors, quand on vient de voir ici, Dieu a comme repris le langage des hommes et puis il nous a donné un langage céleste. Des fois, les langues qu'on peut prier, ça peut être un langage qui priait à quelque part sur le monde ou qui est parlé à quelque part sur le monde. Ça peut être une langue intelligible là, que des êtres humains vont connaître, vont reconnaître, que nous-mêmes qui la prient, on ne la reconnaît pas. Mais aussi le langage des anges, la parole de Dieu nous dit. Donc, qu'on comprenne qu'est-ce qu'on prie ou non, ça ne dérange pas. Qu'est-ce qui est important, c'est que notre esprit prie et prie à Dieu qui est esprit. Donc, notre esprit connecte avec l'esprit de Dieu. Donc, on tombe dans un domaine du monde de l'esprit. Puis, c'est important pour nous d'en parler. C'est important pour nous d'avoir soif pour plus de Dieu. C'est pas encore une fois, ce n'est pas un critère d'être plus spirituel qu'un autre. C'est une question d'avoir cette intimité avec Dieu. Croyez-vous ça aujourd'hui? Amen. Donc, ici, on voit dans Acte 2, là, il y a deux réactions. Quand on entend parler des choses comme ça, ou même dans le temps, l'Église primitive, on voit ici, là, les gens étaient témoins d'un miracle. Ces gens-là de Galilée se mettaient à parler en d'autres langues, commençaient à dire les merveilles de Dieu. Il y avait deux réactions. Il y avait des gens qui étaient émerveillés puis disaient « Wow, qu'est-ce qui se passe? » Puis il y en a d'autres qui disaient « C'est toute une gang de fous, ils sont tous sous. » Il y avait deux réactions. Puis comment ça, il y a deux réactions dans le monde? Et même dans l'Église. Hein? Des fois, il y a deux réactions. Mais il faut voir qu'est-ce qu'on a dans notre cœur pour, par la suite, voir comment on réagit. Mais il y a deux réactions. L'émerveillement et la moquerie. Puis pourquoi l'opposition? Vous savez, moi, j'ai entendu beaucoup de choses contre le parler en langue. Il y a toutes sortes de théologie contre ça. Puis on se dit, mais pourquoi il y a autant d'opposition à une chose qui est biblique? Des gens, des enfants de Dieu qui aiment Dieu, qui vont lire la même parole que nous, mais ils vont s'opposer, ils vont écrire des livres contre ce phénomène. En passant, il y a au-dessus de 700 000 personnes dans le monde qui prient en langue. Pas 500 000, 700 millions. Excusez, c'est une grosse différence. 700 millions qui ont reçu l'expérience du parler en langue. C'est beaucoup de monde. Il y en a qui vont dire que c'est une hallucination. Ça fait beaucoup de monde d'être en train d'halluciner, là. Mais c'est vrai, c'est beaucoup de monde. Et aussi une chose, comme on a lu tantôt, là, on voit, bon, qu'est-ce qui était prêché ici? Ça dit, oui, sur vos serviteurs et vos servants, je répandrai mon esprit. Et là, ensuite, ça nous parle, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. De quoi que ça parle, ça? Ça nous parle de la grande tribulation. Plus tard, là, ça fait juste nous démontrer que quand Dieu va commencer à déverser son esprit, ça va continuer jusqu'à temps qu'on va être dans la grande tribulation. Ben moi, on fera pas partie de cette grande tribulation-là. Mais jusqu'à ce temps-là, ceux qui vont être sauvés dans la tribulation, eux aussi, ils vont avoir l'esprit de Dieu qui va venir sur eux pour les animer puis leur donner le courage pour qu'est-ce qu'ils vont endurer. Mais ici, c'est ça qu'on voit, ça nous parle pas d'un arrêt, que tout d'un coup, on va arrêter d'avoir les dons du Saint-Esprit avec nous. Et même, ça nous dit le contraire dans la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 1, 7, ça dit, ou 1 Corinthiens 1, 17, je crois, ça nous dit qu'il manque aucun don jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, 1 Corinthiens 1, 7, il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il n'y a aucune raison de croire que ces dons-là, le parler en langue, ce n'est plus pour aujourd'hui. Surtout, vu qu'il y a tout ce réveil depuis 1910, il y a eu tellement de personnes qui ont été remplies d'esprit. C'est partout à travers le monde. C'est un témoignage véridique que Dieu a déversé son esprit sur son Église. Mais il y a toujours deux réactions. Puis nous, on fait partie de quel camp? Bien, si vous êtes à notre Église, c'est sûr que vous faites partie du camp qui croit dans ces choses-là. Vous croyez dans le surnaturel. Mais Dieu veut garder l'Église charnelle. C'est pour ça que l'ennemi veut attaquer le message. L'ennemi veut attaquer tout ce qui est surnaturel pour les enfants de Dieu parce qu'il veut nous garder dans le terre à terre. Si on est tous des chrétiens terre à terre, on n'est pas un danger pour l'ennemi. Si on est toujours intellectuel, puis il me semble que, vous savez, on a toutes sortes de théories, on commence à se gratter la tête, puis on essaie de penser à des choses. Mais si on est guidé par l'esprit, puis on prie dans l'esprit, puis Dieu nous donne ses mandats, Dieu nous donne sa direction, puis on a même les prières à prier, bien là, on est un danger pour l'ennemi. Puis là, l'ennemi veut empêcher ça. Il veut tout nous garder religieux. Et moi, je crois que c'est important de réaliser ça, parce que dans 1 Corinthiens 2, 14, ça dit, « L'homme animal ou l'homme charnel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit. C'est l'homme spirituel qui reçoit ces choses-là, qui est ouvert à plus de Dieu. Amen. Moi, je fais partie de ceux qui désirent avoir plus de Dieu. Mais je peux vous dire que pendant un temps dans ma vie chrétienne, j'ai mis de côté le parler en langue. Je vais vous dire pourquoi. Moi, là, à l'âge de 10 ans, j'étais à la chapelle évangélique ici à Granby. Il y avait un prédicateur, le pasteur Foucault, je crois son nom. Foucault. J'avais 10 ans, ça fait longtemps, je ne l'ai jamais revu depuis ce temps-là. Je disais Foucault, mais c'est pas ça, c'est Foucault. Et puis j'étais là avec ma sœur et le pasteur ou l'évangéliste, il avait fait un appel en avant pour tous ceux qui voulaient être remplis de l'Esprit. Et puis je me souviens, la présence de Dieu était vraiment forte là-bas. Et là, on était une foule, tout le monde, là, je me souviens, il y avait une foule de personnes en avant qui avaient avancé pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Et moi, je me suis mis en avant là, et là, il était pour imposer les mains pour qu'on puisse recevoir cette force, cette puissance en nous et prier en langue. Moi, j'étais là en avant. Je me souviens, quand il a prié pour ma sœur, c'est comme, c'est venu sur nous deux en même temps. C'était comme du feu là, qui m'a traversé. Puis là, je me suis mis à parler en d'autres langues. C'était surnaturel. J'ai vécu de quoi là, à l'âge de 10 ans. Mais plus tard, le Seigneur m'a guidé. Je suis certain que le Seigneur m'a guidé dans une autre assemblée pendant un temps. Et cette église-là ne croyait pas aux choses surnaturelles comme ça. Et puis, c'est là où j'ai rencontré mon épouse. Donc, je sais que Dieu m'a guidé là. Dieu voulait que je marie Mathilde. Mais en tout cas, pendant que j'étais là, la première question que le pasteur m'a demandé, avant même de me dire « C'est quoi ton nom? » Il me dit « T'es pentecôtiste, toi? » Il dit « C'est quoi ton interprétation du baptême du Saint-Esprit? » J'étais comme ça. Là, j'ai donné la réponse classique. Là. Et puis, il dit « Oh non, c'est pas ça. Faut qu'on s'assoie ensemble et qu'on en parle. » Sauf que finalement, là, on a jasé ensemble. Et puis moi, j'ai été totalement écrasé. En tout cas, ça ne m'a pas béni. Mais là, qu'est-ce que j'ai fait? Je peux vous dire, j'ai mis de côté mon langage spirituel. Pendant 4 ans, j'ai mis de côté. Et je vous dis pourquoi. J'étais dans cette église et j'entendais qu'il y avait des gens qui venaient de d'autres églises qui priaient en langue. Okay? Et puis là, qu'est-ce que les pasteurs faisaient? Ils prenaient cette personne, okay? Ils mettaient sur une chaise et là, tous les pasteurs et les anciens venaient et voulaient chasser les démons sur la personne. Et si la personne, OK, avait pas de manifestation démoniaque, ils disaient, OK, finalement, c'est correct, c'est de l'esprit. Mais moi, j'avais entendu une chose comme ça. Puis je savais que dans cette église-là, qu'on faisait ça. Si quelqu'un prie en langue, on va essayer de chasser, puis s'il n'y a rien qui sort, OK, finalement, tu es correct. Mais vous pouvez voir là, qu'est-ce que j'ai entendu, moi, dans ce temps-là. Moi, j'avoue, quand j'ai entendu qu'il faisait ça, j'ai dit, ben moi, j'arrête tout de suite. Je veux pas qu'on m'exorcise, moi. Je veux pas. Sauf que là, puis je me suis dit, je vais arrêter, parce que si jamais quelqu'un me pose la question, toi, tu pries-tu en langue? Je pourrais dire non. Ça va être vrai, parce que j'ai arrêté. Sauf que pendant 4 ans, j'ai arrêté de prier en langue parce que j'avais peur. Mais vous savez que l'amour parfait n'est pas dans la crainte. Hein? Ce n'est pas de Dieu, ça. Et eux avaient peur des démons. On n'a pas à avoir peur des démons. Si on est un enfant de Dieu, on est plus puissant que les démons. Mais en tout cas, sauf que là, finalement, en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis devenu un chrétien intellectuel, mais desséché intérieurement. Je me suis commencé à vraiment à être sec comme un poteau de bois, comme un poteau de téléphone, comme on dit. Et je savais qu'il y avait plus de Dieu. Et même Mathilde, qui venait juste d'être sauvée, qui est née spirituellement dans cette église-là, elle savait, elle dit, on dirait qu'il y a plus, il manque de quoi, j'ai besoin de plus. Et puis, on est allé dans des réunions de Joyce Meyer, et c'est là que Joyce Meyer a prié que tout le monde soit rempli du Saint-Esprit. Dans chacune de ses conférences, elle prie pour les gens, puis c'est là que Mathilde a reçu un feu en dedans d'elle. Elle n'a pas prié en langue cette journée-là, mais elle a prié en langue plus tard. Mais qu'est-ce qu'elle a reçu? C'était le feu, puis plus tard, c'est sorti quelques jours après, où elle a déjà partagé peut-être 1 ou 2 semaines, je ne sais pas. Plus tard, en tout cas. Et puis, tout ça pour dire que Dieu veut qu'on puisse opérer dans ce langage spirituel, mais l'ennemi, lui, veut pas. Il veut pas qu'on prie en langue parce qu'on est un danger pour lui. Donc, pourquoi la moquerie, c'est pour ça? Pourquoi l'opposition, c'est pour ça? Et dans Ésaïe 55, versets 8 à 9, ça dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ça, c'est dans Ésaïe 55, versets 8 à 9. Et la raison pourquoi je vous lis ça aussi, c'est parce que en tant qu'être humain, et quand j'ai parlé avec des croyants qui aiment le Seigneur, mais qui se moquaient de ceux qui prient en langue, ils disaient, mais qu'est-ce que ça donne? Pourquoi prier en langue? Qu'est-ce que ça donne, ça? Tu comprends rien? Et là, même la question suppose que, à quelque part, les êtres humains doivent tout comprendre. c'est de mettre notre intelligence, notre cerveau, et l'élever au-dessus de la parole de Dieu et dire, « Moi, quand je prie, je dois tout comprendre. » Mais savez-vous, c'est merveilleux de ne pas tout comprendre quand on prie. Parce que quand on prie et on ne comprend pas tout, mais Dieu se sert de nous et là, il prie ses mystères. Mais si on comprend tout, des fois, là, quand on est troublé, vous vivez des épreuves, bien, des fois, vous ne savez pas comment prier. C'est ça que ça dit dans la parole. On ne sait pas comment prier, mais l'Esprit intercède à travers nous. Il va se servir de nous dans Romains 8, 26, 27, 28. Ça en parle de ça. Et après, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais parce qu'on prie en esprit. Donc, c'est super important. Et aussi, en même temps, c'est un signe pour les incroyants. Quand on prie en langue, c'est un signe pour les incroyants. OK, je vous lis le texte dans 1 Corinthiens 14, 22. Les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Savez-vous pourquoi? Je vais vous raconter une histoire. Bien, vous savez déjà, moi, quand j'ai remis en question toutes les choses de l'esprit, les dons des langues, j'étais aux États-Unis, dans l'État de New York, et puis il y avait une sœur chrétienne qui se mettait à chanter en français, en langue. Elle savait pas, mais elle était en train de chanter en langue, puis elle disait « Jésus revient bientôt ». Elle chantait en esprit, en français. Moi, je comprenais. Dieu a confirmé la réalité du parler en langue par cette sœur-là. Okay? Ça, c'est une chose que moi, j'ai vécue. Mais aussi, cette semaine, j'ai écouté une prédication et le nom de la personne, c'est Bobby Jean Merck, qui priait en langue. Okay? C'est une sœur qui intercède. C'est une générale, si on veut, dans l'intercession. Puis elle prie, puis elle prie, elle prie beaucoup en langue. Puis là, il y avait un bébé qui était malade. Et puis, il y avait un couple qui ont demandé qu'elle prie. Puis là, elle se met à prier en langue. Mais elle commence à prier en langue en russe. Puis elle, c'est une Américaine, elle ne comprend pas le russe, tout ça. Mais là, le mari, après, il dit, « Mais c'est spécial, tu as déjà habité en Russie? » Ou... Elle dit, « Pourquoi? » Il dit, « Ben, tu priais des prières de guérison. Tu disais, par tes meurtrissures, nous avons été guéris. » Il dit, « Tu disais tout ça en russe. Puis moi, je suis russe. » Elle, elle ne savait pas que c'était un russe, mais elle se mettait à prier. Et même, étant en Israël, elle se mettait à prier en hébreu, surnaturellement, à prier en hébreu. Puis il y avait des gens là, entre autres des gens non charismatiques qui ne croient pas au don du Saint-Esprit, des cessationnistes, comme on dit, qui étaient là, qui l'entendaient prier en hébreu. Puis ils disaient, waouh, c'est spécial qu'une Américaine s'est priée en hébreu comme ça. Et là, les gens qui étaient avec elle ont dit, elle ne connaît pas l'hébreu, mais elle prie en hébreu. Mais ils disaient, en plus, c'était, comme je vous dis, des cessationnistes. Elle dit, non, elle prie en langue, ce n'est pas la même chose. Là, les gens, là, dans le témoignage, ça dit, ça prie bien du temps avec la personne soit correcte avec tout ça, parce que ça ne rentrait pas dans sa théologie qu'on pouvait encore prier en langue, parce que supposément, c'était tout fini. Hein. Mais c'est pas fini. C'est encore précieux pour l'Église de Jésus-Christ. On a encore de besoin, parce qu'on a beaucoup de travail à faire. Surtout pour nous, ici, là, notre Église, on a besoin d'avoir ce langage-là en opération, même pendant qu'on loue le Seigneur, pendant qu'on célèbre Dieu, que ça puisse sortir de nos cœurs en toute liberté, parce qu'on est en train de faire du ravage dans le camp de l'ennemi. C'est important. Ce n'est pas une question de classe, on est plus spirituel que d'autres. Ce n'est pas ça, c'est une question de recevoir le don que Dieu veut pour nous. Amen. Et il y a des faux raisonnements concernant les langues. C'est une chose qu'on doit comprendre aussi, des faux raisonnements qui peuvent nous empêcher de recevoir ça dans nos vies. Une des choses, OK, c'est que les langues sont seulement pour certains croyants. Avez-vous déjà entendu celle-là? Les langues, c'est seulement pour certaines personnes. Excusez, certaines personnes, moi, j'ai d'autres dons. OK? Et on va regarder ça ensemble. Est-ce qu'on peut aller dans la parole de Dieu? 1 Corinthiens 14. Aujourd'hui, peut-être, on va mettre des choses en lumière, puis vous allez pouvoir méditer là-dessus, puis voir qu'est-ce que le Seigneur vous enseigne. 1 Corinthiens 14, et on va commencer au verset 5. Ici, l'apôtre Paul, il dit, « Je désire que vous parliez tous en langue. » Est-ce que ça, c'est compliqué à comprendre? L'apôtre Paul, okay, qui est inspiré du Saint-Esprit, il dit ici, « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. » Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dit ça? Ça dit, « Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. » Quand on lit 1 Corinthiens chapitre 14, on lit tout au complet, on comprend que l'apôtre Paul est en train de nous parler des dons du Saint-Esprit dans l'opération dans l'Église locale. OK? Donc, c'est plus important dans l'Église locale que les gens soient édifiés, qu'on entende dans notre langage. Si moi, j'arrivais ici puis je vous parlais en langue toute la réunion, Bien, moi, je pourrais être édifié, mais vous autres, ça serait super plate. Vous ne pourrez pas comprendre. Hein? C'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Mais ça demeure que l'apôtre Paul est en train de nous dire, j'aimerais ça que vous parliez tous en langue, parce que c'est une force spirituelle, c'est de l'armure pour le croyant. Verset 17, ça dit, on va lire au verset 14, on va aller au verset 14, ça dit, « Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » C'est clair, mon intelligence demeure stérile, et c'est pour ça qu'il y en a qui refusent de prier en langue, parce qu'ils disent, « Moi, il faut tout que je comprenne. Hein? » Mais ça, c'est de l'arrogance, à quelque part. Mais c'est correct que mon intelligence demeure stérile. Là, ça veut dire que je prends un break et je laisse le Saint-Esprit travailler à travers moi. Verset 15, « Que faire donc? » Mettons ça dehors de l'Église. Hein, que faire donc? Non, la réponse, ça dit que faire donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc, on a les deux dans l'Église. Verset 16. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Donc, c'est très clair ici. Si on était tout en train de prier en langue en même temps, bien là, quelqu'un qui nous visite dirait, bien, c'est quoi, sont toutes une gang de fous? On ne comprend rien. Verset 17. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Comprenez-vous ici le contexte? C'est assez simple. Dans l'Église locale, ça serait mieux pour nous de parler en français parce qu'on est une Église francophone. Par contre, dans notre temps personnel de prière, c'est correct de prier 10 000 langues si on veut. On peut parler comme ça autant qu'on veut. Et dans l'Église locale, admettons que quelqu'un se met debout et commence à parler en langue d'une façon forte, tout le monde entend, donc toute l'attention est captée. Là, on s'attend qu'il devrait y avoir l'interprétation de ces langues-là, parce qu'à quelque part, tout le monde a eu l'attention captée sur la personne. Ça serait ridicule qu'une personne se mette debout et... OK, qu'est-ce que ça a donné? On n'a rien compris. Donc, dans l'Église, toujours, c'est comme ça. Mais question de la prière personnelle, ça en est d'autres. Amen. Donc, il y a une différence ici. Et au verset 39, ça dit, « Frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » Donc, des fois, quand il y a eu du désordre, les gens, qu'est-ce qu'ils ont eu comme réaction? Ils ont dit, « On va tout mettre dehors de l'Église. » Et en mettant toutes les choses dehors de l'Église, Satan se réjouit parce que l'Église est dépourvue de puissance. La puissance qu'on est censé d'avoir s'est mise de côté. Donc, si vous avez déjà mis les choses de l'esprit de côté, repentez-vous et dites, « Seigneur, moi, je veux tout ce que tu veux me donner. Je veux être un vaisseau libre pour toi, que tu te serves de moi, Seigneur. » Et on l'a déjà fait ici, hein, un mercredi soir. On a prié ensemble, puis on a réaccepté de célébrer les dons que Dieu nous avait donnés. Parce que c'est ça que Dieu veut. Donc, la pensée que c'est seulement pour certains croyants, c'est erroné parce que l'apôtre Paul nous dit qu'il veut qu'on parle tous en langue. Mais aussi, il y a d'autres endroits, on va lire dans 1 Corinthiens chapitre 12. On va lire ici parce que là, ici, on peut se poser des questions concernant, oui, mais Dieu en donne à qui il veut. Et on va voir le texte ici, on va le voir exactement. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, je vais commencer au verset 1, ça dit, « Pour ce qui concerne les dons spirituels ou les dons du Saint-Esprit, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. » OK, Dieu veut qu'on connaisse ces choses-là. Le fait qu'on prenne du temps aujourd'hui pour parler des dons du Saint-Esprit, c'est important pour nous. Dieu veut pas qu'on soit dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Ou en autre mot, personne qui est animé du Saint-Esprit va dire que Jésus est maudit. Donc, si une personne dit que Jésus est maudit, c'est certainement pas poussé par l'Esprit de Dieu. Et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc, si une personne croit vraiment et s'est poussée par l'Esprit de Dieu et dit « Bon, ici, Jésus est Seigneur », on sait que cette personne-là est animée par Dieu quand c'est vraiment dit avec foi, à moins que quelqu'un le dise en se moquant. Mais quand c'est vraiment poussé par la foi, on sait que c'est le Saint-Esprit. Au verset 4. « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère toutes en tous. Or, au verset 7, or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Encore une fois, on parle des dons du Saint-Esprit ne sont pas donnés pour nous en réalité, sont donnés pour l'utilité commune. C'est donné pour le corps de Christ. Et ça dit ici que chacun a la manifestation de l'Esprit. Chaque enfant de Dieu a un don que Dieu vous a donné. On a tous un don. Il n'y a personne qui peut dire, mais Dieu a passé tout droit avec moi, puis j'en ai pas eu. Mais vous avez tous un don. Ici, on parle dans l'Église, OK? Aussi, au verset 7, ça dit, pour l'utilité commune. Donc, pour l'Église, Dieu a donné à chaque personne un don. Verset 8, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc ici, on voit que Dieu décide qui reçoit quelle sorte de don. Mais là, vous avez lu ici, ça nous parle de la diversité des langues. Mais là, vous allez dire, possiblement, comme certains qui ne croient pas que tout le monde peut prier en langue, ils vont dire, oui, mais vois-tu, Dieu en donne à qui il veut. Puis ici, ça nous dit que la diversité des langues, c'est selon le cœur de Dieu, comme il veut. Et c'est vrai. Mais ici, on parle encore une fois de l'Église. Quand on parle de l'opération des dons surnaturels dans l'Église, on n'a pas tous nécessairement tous les dons du Saint-Esprit. Hein? Moi, je n'ai pas nécessairement tous les dons, mais je sais que Dieu m'en donne et Dieu vous en donne pour l'opération des dons surnaturels dans l'Église locale. Mais ici, quand on parle de la diversité des langues là, et l'interprétation des langues, on parle encore de l'opération du don des langues pour un message prophétique dans l'Église locale. On ne parle pas juste d'un langage spirituel. Parce que si on parle, si on met les deux ensemble et on dit que ce n'est pas tout le monde qui a ça, ça veut dire qu'il y en a qui ont accès à un langage de prière et d'autres personnes sont démunies. Et quand ils vivent des épreuves, eux, ils peuvent juste rester dans le terre-à-terre parce que Dieu a choisi qu'eux ne pouvaient pas prier comme ça. Mais il y a une différence entre la prière dans l'esprit et la diversité des langues pour un contexte public. Voyez-vous la différence? C'est important parce que vous allez rencontrer des gens qui vont dire, « Ah, ben si c'est donné à toi, gloire à Dieu, mais ça ne veut pas dire que c'est donné à moi. » Mais Dieu ferait des chouchous dans ces dons-là. À quelque part, c'est important de prier en langue parce que c'est une force pour nous autres. On rentre dans un autre niveau spirituel. Et le cas que je viens de vous lire ici, là, oui, c'est vrai que Dieu a donné peut-être une personne dans l'Église ici que vous avez vraiment l'appel et le don de la diversité des langues. Vous pouvez vous lever dans l'Église puis parler à haute voix avec un message en langue. Et là, quelqu'un d'autre a le don d'interpréter cette langue-là. Et là, gloire à Dieu, le corps de Christ localement va être édifié. Mais c'est une autre chose que juste la prière personnelle. Parce que l'apôtre Paul, on l'a vu tantôt, il dit, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. On a accès aux deux. Puis dans la chambre haute, tout le monde prie en langue. Avez-vous remarqué ça? Les 120 qui étaient réunis là, c'était tout le monde qui était rempli du Saint-Esprit. Il n'y en avait pas un comme, ah ben toi mon frère, tu l'as les langues. Ouh, super! Moi, c'est d'autres choses que Dieu va me donner. Hein? C'était pas ça, c'était tout le monde qui veut être rempli du Saint-Esprit. Il faut tous remplis du Saint-Esprit. Il n'y avait pas d'exception de personne. Mais à quelque part, il faut juste revenir puis voir dans le contexte, OK, si l'apôtre Paul est en train d'enseigner pour l'Église locale, l'opération des dons dans l'Église locale, c'est une différence. Est-ce que c'est clair pour vous aujourd'hui? Amen. Ça, c'est ma compréhension et c'est la compréhension puis l'expérience d'au-dessus de 700 millions de personnes. Donc, Dieu et la prophétie qui dit « Je vais déverser mon esprit sur toute chair », c'est ça la réalisation. Amen. Mais si vous dites « Moi, Joël, je ne comprends pas ça comme ça et je ne veux pas prier en langue », correct, il n'y a pas de pression sur personne. Hein? Je ne veux pas être guéri. Il y en a du monde, on va dire « Est-ce que tu veux être guéri? » Non, je vais être coupé sur mon assurance, ou ma pension. Il y a des gens qui ne veulent pas plus de Dieu. On ne va pas vous juger, c'est libre à vous. Les dons de Dieu, c'est des dons justement. Hein? Dieu ne nous impose pas de quoi. Il ne dit pas, tu es forcé d'opérer des miracles. Non, si on désire plus de Dieu, Dieu va se servir de nous, va nous en donner plus. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ça, c'est une chose que je trouvais très importante pour nous, qu'on puisse tous être sur la même page, qu'on puisse tous comprendre la même chose, du moins que vous compreniez au moins c'est quoi ma compréhension là-dessus. Parce qu'on a déjà eu une discussion une fois avec quelqu'un qui me posait des questions là-dessus, puis ça semblait qu'il y avait un manque de clarté. Je pense qu'on peut y arriver avec la parole de Dieu. Pourquoi c'est important? Bien, on le dit, c'est très important la prière en langue pour l'intercession. Dans 1 Corinthiens 14, 2, bien, on l'a lu tantôt, c'est ça, c'est l'Esprit qui dit des mystères. Donc, 1 Corinthiens 14, 2, l'Esprit dit des mystères quand on prie. Et dans Romains 8, 26, 27 et 28, comme on dit, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas comme il nous convient de prier ou de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et une autre chose, qu'est-ce que ça fait? Ça nous aide à avoir l'oreille pour l'Esprit. Parce que dans Romains 8, 14, ça dit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Donc, à quelque part, il faut avoir notre oreille développée où on peut entendre la voix de Dieu pour notre vie personnelle. Puis ça se passe tout comme on prie en esprit. Le plus qu'on prie en langue, le plus on est connecté avec Dieu. OK? La puissance de la parole spirituelle aussi. Toute la parole de Dieu, c'est merveilleux. Et quand on peut prier, certainement aussi en utilisant les versets, mais des fois, comme on voit, comme avec l'histoire de Bobby Jean, là, que je vous ai dit, a commencé à décréter les versets de la parole de Dieu, mais dans un autre langage. Hein, on peut même prier des versets de la parole de Dieu dans une langue qu'on ne connaît pas. C'est merveilleux. Puis là, on a lu tantôt les dons du Saint-Esprit. Peut-être que vous vous dites, ben, Joël, c'est quoi ces dons-là? Si vous ne posez pas la question, je vais vous répondre quand même. J'espère que vous êtes intéressés. Donc, on l'a lu dans 1 Corinthiens chapitre 12, tous les dons du Saint-Esprit. Peut-être qu'il y a certaines personnes parmi vous, vous dites, « Ouais, mais c'est quoi que ça veut dire? C'est quoi ces dons-là? » Ou peut-être j'ai l'impression que je comprends ou je connais, mais je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on peut regarder ensemble, voir tous les dons du Saint-Esprit? Aujourd'hui, on va voir c'est quoi ces dons-là. Et peut-être vous allez voir que vous avez déjà été utilisé de la part de Dieu avec un certain don, puis vous ne saviez même pas. Parce que des fois, le Seigneur va se servir de nous par son esprit. On ne sait même pas, mais finalement, c'est comme, « Aïe, aïe, c'était surnaturel, puis je ne savais pas. » Ça, c'est merveilleux. 1 Corinthiens 12, 1, ça dit, « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. » Alors, on va connaître ces choses-là. OK, donc la parole de sagesse, c'est quoi ça? J'ai entendu des gens dire, « Ah, bien, cette personne-là a le don de sagesse. Cette personne-là, elle prend toujours des bonnes décisions, vraiment, elle est bien guidée. » Ça, c'était des chrétiens qui me parlaient, même des pasteurs. « Ah, cette personne-là est tellement sage, elle a le don de sagesse. » Mais ça, c'est faux. Parce que ça ne nous parle pas le don de la sagesse, ça nous dit le don de la parole de sagesse. Il ne faut pas omettre des paroles, de la parole de Dieu, c'est la parole de sagesse, le don de la parole de sagesse. Une différence. Dieu vous donne, par exemple, un don, et là, admettons, vous vous promenez, vous rencontrez quelqu'un et surnaturellement, Dieu vous donne une parole, mais c'est une parole sage, si on veut, une parole pour l'autre personne et vous ne savez même pas nécessairement que la personne avait besoin d'une telle parole. Ça, par exemple, je peux me rappeler Jill Mattis, qui était la pasteur, la femme en charge de tous les ministères de prière en Alberta au Miracle Channel. Elle recevait des appels à chaque jour, elle recevait plein d'appels. Son ministère, elle, c'était vraiment de s'occuper du département de prière. Tous ceux qui appelaient, il y avait des appels des gens qui voulaient se suicider. Bon, mais elle était là pour répondre au téléphone avec tous ses intervenants qui étaient là pour répondre au téléphone, pour savoir comment répondre aux gens qui appelaient pour la prière. Donc, c'est toute une responsabilité, surtout quand on reçoit des appels d'un petit peu partout à travers le Canada et même des fois dans d'autres pays. Et j'ai demandé à Pastor Jill, j'ai dit, est-ce que tu as déjà vécu un temps là, vraiment surnaturel que Dieu t'a donné des paroles comme ça? Puis elle me dit, Joël, elle dit, je me souviens un verset que le Seigneur m'avait donné, OK, dans Ésaïe 52, 1, ça dit, en tout cas, je vais vous dire après, mais c'était un verset qui est déposé en mon esprit pour une autre personne. Une femme elle venait d'appeler, était toute bouleversée parce que sa fille commençait à fréquenter des gens dans le monde qui étaient vraiment des mauvaises influences. Puis elle appelait, puis elle disait, vraiment, je suis tourmentée, j'ai peur pour mon enfant, qu'elle va faire fausse route, puis tout ça. Et là, avant même de connaître tout ça, Pastor Jill avait donné une parole de sagesse, et c'était ce verset-là, Ésaïe 52, 1. « Il n'entrera plus chez toi, ni incirconcis, ni impur. » La femme était bénie. Aïe, aïe, comment tout ça? Ça, c'est la parole de Dieu que j'avais besoin d'entendre. C'est une parole de sagesse. OK? Mais c'est sage, c'est certainement sage, ça vient de la parole de Dieu. Et si la mère inquiète a reçu cette parole de sagesse pour elle-même, juste poussé par l'Esprit de Dieu qui disait, non, ton enfant ne sera pas corrompu par ces personnes-là. Il n'entrera chez toi ni incirconcis, ni impur. Et cette femme-là a pris cette promesse de la parole de Dieu, puis elle commençait à décréter ça dans sa maison quand son enfant n'était pas là. Elle décrétait ça. Puis Dieu a fait le ménage et la jeune fille n'a pas été influencée par ces gens-là. Et puis, Pastor Jill me dit que tous ceux qui ont pris ce verset-là, par la suite, quand leurs enfants allaient dans une mauvaise direction, elle dit qu'il n'y en a pas un qui a été perdu. Tout le monde s'est accroché à cette promesse-là, puis Dieu a fait des miracles. Ça, c'est une parole de sagesse, une parole de connaissance. J'en ai déjà partagé une fois un mercredi soir ici, mais c'est l'illustration que je trouve vraiment super. Ma cousine Nathalie, il y a plusieurs années, elle sentait super seule, puis elle dit au Seigneur, elle dit, je me sens tellement seule, on dirait, j'ai même pas des anges pour me protéger. Elle dit, on dirait, je suis tout fine seule dans le monde. Ça, c'est comment qu'elle sentait. Et elle s'en va à l'église, et là, quelqu'un vient proche d'elle et lui donne une parole de connaissance. En réalité, c'est une parole que Dieu connaissait. Vous savez, les dons du Saint-Esprit, c'est toujours une parole, ou les dons concernant les dons de connaissance, c'est une chose que Dieu connaît, que nous autres, on ne connaît pas, mais qu'on va dire. Sauf qu'une parole de connaissance, ce n'est pas comme « je te vois mal, ça va mal dans ta vie, puis je pense que je devrais faire ça. » Ça, ce n'est pas une parole de connaissance. Ça, c'est une réaction à quelque chose que vous pouvez voir avec, dans le naturel. Mais en tout cas, ma cousine était un petit peu déprimée comme ça. Et là, il y a quelqu'un qui vient la voir pour lui dire, « Nathalie, je ne sais pas, mais je me sens poussée là, de venir te dire que tu es entourée d'anges. » Ça, c'était super merveilleux pour elle. Elle était encouragée parce que, « Wow, tu sais, c'est comme j'ai dit ça un matin, puis Dieu m'a entendu, puis il m'envoie quelqu'un avec cette parole de connaissance. » Dieu seul connaissait mon cœur. Dieu seul savait qu'est-ce que je venais de dire, de prononcer. Puis là, quelqu'un est envoyé pour m'encourager. C'est une parole de connaissance. Aussi, je me souviens un témoignage. Il y avait un évangéliste aux États-Unis. Il était en train de construire une école biblique. Et puis là, il y avait tous ceux qui travaillaient dans la construction. Il y avait l'architecte, puis il était comme... L'architecte était là, il disait, ou le contracteur, il disait, on ne peut plus continuer avec la construction. Il y a une faille, un problème, un certain niveau dans la fondation. Puis les choses... En tout cas, il y avait beaucoup, beaucoup d'argent d'investi déjà. Et puis là, l'évangéliste était là. Il recevait ce mauvais rapport comme quoi... On ne peut plus continuer, tout l'argent que tu investis, on est bloqué, il y a un problème. Et là, l'évangéliste est comme, un instant, il dit, je vais aller marcher. Il s'en va marcher, il prie Seigneur, il dit, montre-moi, c'est quoi la solution? Je ne la connais pas, mais toi, tu connais la réponse. Il se met à prier, et là, Dieu dépose dans son cœur une équation mathématique. Puis il arrive, puis il dit, monsieur, si on faisait ça, ça, puis ça, concernant les mathématiques, tout ça, est-ce que ça pourrait résoudre le problème? Puis là, le monsieur, il dit, « Comment t'as su? » Il dit, « Aïe, aïe, c'est la seule affaire qui peut marcher. » Il dit, « Oui, ça marche. Oui, les boys, on continue à travailler. » Et c'était comme ça qu'on a vu une parole de connaissance. C'est merveilleux. Dieu connaît toutes choses. D'autres, on ne connaît pas tout, mais Dieu, lui, connaît tout. Puis quand on a des problèmes, tournons-nous vers lui. Des fois, Dieu va nous donner... Des mystères comme ça, des choses. Lui, le pasteur, après, il s'est mis à pleurer devant les gens de construction. Puis là, après, le contracteur a dit, « C'est correct, Preacher Man, c'est correct, on a la réponse. » Mais lui, il pleurait parce qu'il était touché, parce que Dieu lui avait donné la réponse qu'il avait besoin. C'est le grand Dieu qu'on sert aujourd'hui. On sert un Dieu qui a toutes les réponses pour nous autres. Vous savez, là, qu'est-ce qu'on est en train de vivre? On est des pionniers, là, en train d'établir de quoi au Québec? On passe par des chemins qui sont... spéciales, qui sont particuliers. Mais Dieu connaît notre cheminement. Dieu connaît tout ça. Puis dans quelques années, on va regarder en arrière et on va dire, « Wow! Regarde ce que Dieu a fait. Hein? Regarde ce que Dieu a fait. » Mais on n'a pas démissionné. On n'a pas relâché parce qu'on dit, hey, c'était difficile. Si on connaît l'histoire des grands prédicateurs, là, n'importe qui a fait de quoi, là, ça a toujours été difficile. Hein? L'ennemi, il ne donne jamais son territoire gratuitement. Il faut toujours qu'il y ait une bataille à quelque part. Quand on veut aller de l'avant. Puis ça, c'est merveilleux parce qu'on a un grand Dieu qui connaît tous les mystères. Puis Dieu, même si nous autres, on ne connaît pas tous les chemins, là, mais Dieu, il les connaît. Puis il nous guide par son esprit, puis il nous protège. Il y a aussi le don de la foi. OK, juste en passant, là, comme je vous ai dit, c'est parole de sagesse et parole de connaissance. Ça, c'est le don. Ce n'est pas un don de connaissance. J'ai entendu un prédicateur qui disait... Le don de connaissance, comme il disait, c'est quelqu'un qui a cette capacité d'aller à l'université et Dieu lui a donné ce don où il peut beaucoup retenir les informations. Okay? Il peut aller à l'école, puis lui, ça va être super facile parce qu'il a le don de la connaissance. J'ai entendu une prédication là-dessus, puis j'étais comme, Oh non, c'est pas ça. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? On peut rien dire, hein, qu'on est dans l'auditoire, mais c'est pas le don de la connaissance. Si c'était le don de la connaissance, ça serait écrit le don de la connaissance. Mais c'est le don de la parole de connaissance. C'est une autre chose, c'est surnaturel. Mais je me souviens que j'avais été faire après, j'avais été rencontrer le pasteur juste comme en privé, là. Moi, j'avais peut-être 18 ans. J'ai dit, pasteur, j'ai dit, ça se peut-tu que ça serait plus ça? Oh non, 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 c'est pas ça, pas en tout. Non, ça, ça serait trop surnaturel, puis toi, je sais, tu viens d'un certain milieu, là. Mais c'est pas, c'est des dons, c'est comme terre à terre, c'est correct d'être terre à terre. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je comprends ça. Sinon, ça serait don de connaissance, mais c'est don de parole de connaissance. Et don de la foi aussi. Vous savez, moi, je me souviens, il y a quelques années, ma belle-sœur avait eu un accident, et puis est entre la vie et la mort. Et quand Mathilde a reçu le rapport au téléphone, comme quoi sa sœur était entre la vie et la mort, là, j'ai dit à Mathilde, j'ai dit, c'est quoi qu'on fait? Est-ce qu'on choisit le doute, la crainte, ou est-ce qu'on choisit la foi? Et quand Mathilde a choisi la foi, surnaturellement, là, elle a eu le don de la foi en opération. Parce que là, on est allé à l'hôpital, puis même si ma belle-sœur était sur le bord de la mort, ma femme, elle pouvait sauter, puis danser, puis se réjouir, parce qu'elle avait la conviction dans son cœur qu'elle était pour vivre, elle n'était pas pour mourir. Puis ça avait l'air quasiment bizarre, parce qu'elle était trop contente. Mais c'est vrai, quand on a choisi la foi, bien, Dieu nous donne le don surnaturel. Ça ne fait pas de sens, ce n'est pas raisonnable. Mais souvent, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Ce n'est jamais raisonnable. Hein? Ce n'est pas raisonnable, mais on y va parce que Dieu nous donne la parole. Et des fois, on ne demande pas pour la chose, mais Dieu nous donne la foi surnaturelle pour le faire. C'est comme, je me souviens, Dr. Dick et Joan, la seule chose qu'ils n'ont pas vendue, eux, c'est leurs enfants. Quand ils ont parti Miracle Channel, c'est ça que Elissa a dit. C'est la seule affaire que mes parents n'ont pas vendue, c'est nous autres. Parce qu'ils ont tout vendu, mais ils croyaient. Il y avait le don de la foi en dedans d'eux autres. Puis ils allaient parler, puis ils disaient, on va l'avoir, notre station de télévision internationale pour le Canada, pour les nations. Puis les pasteurs de la place, c'était comme, c'est un craqué, lui. Mais quand on a le don de la foi en opération, des fois, c'est pour un moment super rapidement, puis d'autres fois, c'est sur un long bout de temps. Hein. Des fois, ça peut être sur 10 ans. Peu importe, mais c'est ce don en opération pour de quoi qui est dans le cœur de Dieu. Donc, ça dépasse l'intelligence, ça dépasse la raison, c'est dans le domaine de la foi. Puis la foi, là, juste dans Hébreu 11, c'est une attente sûre et certaine de ce qu'on espère. On espère là. Je vais vous lire en français, parce que là, je traduis de l'anglais. Dans Hébreux 11, verset 1, « La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, c'est une ferme assurance. On a cette assurance dans notre cœur de faire quelque chose, cette chose qu'on espère faire, et c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si on a vraiment la foi, on va démontrer ça par des pas, des gestes. Comme nous, on croit des choses, on se met en position pour le faire, on prend les pas pour aller dans cette direction-là. Donc, c'est une démonstration. Amen. Ça, c'est le don de la foi en opération que je vous ai raconté concernant ma belle-sœur. Il y a aussi le don des guérisons. OK? Don des guérisons. Pourquoi pas juste don de guérison? Il y a une différence. Il y a des gens qui ont un don pour des guérisons. Je sais que mon oncle Daniel, qui est pasteur, lui, il a le don de guérison concernant ceux qui sont sourds. Souvent, moi, quand j'étais en mission avec lui, quand quelqu'un, il y avait une personne qui était sourde, il priait pour la personne et la personne était guérie. Mais il y avait d'autres personnes qui avaient d'autres choses puis ils n'étaient pas guéris. Mais souvent, là, quand c'était pour la surdité, il priait. C'était un don de guérison spécifique pour un besoin. Moi, je crois que Dieu peut guérir n'importe quoi, mais c'est pour ça qu'on voit, c'est pas juste don de guérison, c'est don des guérisons. Toutes sortes de guérisons différentes. Et je me souviens... Mon épouse, dans le temps, était malade dans son corps. Elle avait la picote. Elle a eu ça assez vieux dans la vie. Hein? Elle avait peut-être 20 ans. Avec 20 ans? 24 ans. Et puis quand on a 24 ans et on a la picote, c'est beaucoup plus difficile, supposément. Ça pique puis c'est pas le fun. Et puis Mathilde était ici, elle dormait dans la chambre en haut, puis elle était ici parce qu'elle pouvait se baigner dans le chlore. Puis le chlore, ça soulage un petit peu la démangeaison. Et puis un soir, là, j'ai prié pour ma femme. Il n'y avait rien qui se passait. Et puis là, je disais, là, Mathilde, elle se tordait, elle était de tous les sens. Là. Elle avait mal, ça piquait, elle ne pouvait pas se gratter. Là, rendu à minuit le soir, là, moi, je priais comme ça. Là. Puis là, j'ai dit, OK, là, je vais appeler mon oncle Daniel. Là. On va le faire venir. Il va prier pour elle. Mon oncle Daniel, il est venu, il est sorti de son lit. Il est venu ici. Et puis là, il est venu prier pour elle. Il dit, sois guéri au nom de Jésus. Il s'en revient d'abord, s'en va chez eux. Mathilde, elle s'est endormie. lendemain matin, elle se réveille, toute la picote était desséchée, puis elle faisait ça, ça tombait tout. C'était tout parti. Ça, c'est le don, mais il y a le don aussi pour guérir la picote, ça a l'air. Mais c'est ça, c'est don des guérisons. C'est pas juste la picote, pas juste les personnes sourdes, mais aussi, Mathilde a prié pour des gens, on sait, qui ont été guéris. Moi aussi, même on a prié dans certaines réunions, des gens dans d'autres réunions avaient été guéris. Souvent, Dieu va opérer aussi comme il veut. Des fois, une personne peut vraiment utiliser avec un certain don, puis des fois, Dieu va choisir que, OK, ben, il y a un besoin, présentement, je te donne ce don-là pour le besoin. Hein, c'est, les dons appartiennent au Saint-Esprit, ils ne nous appartiennent pas. Ça appartient tout à Dieu. Si Dieu a un besoin là, d'une guérison, ben, ça, probablement, il ne vous donnera pas une prophétie pour la personne. Il va vous donner le don que la personne a besoin. Donc, et le don d'opérer des miracles, OK? Vous savez, Jésus a prié pour le pain, les poissons, puis il y a eu la multiplication miraculeuse. Croyez-vous que c'est encore possible aujourd'hui? Bien, Patricia King, qui était en Arizona, elle avait des gens avec elle qui mangeaient chez elle. Et puis là, elle avait du poulet, du genre Kentucky Fried Chicken. Là. Mais c'était pas du KFC, mais c'était du poulet. Puis elle avait besoin d'autres. Ils ont dit, on va prier. Ils ont prié sur le poulet. Et puis là, les gens sont venus servir. Puis finalement, il y avait des restants de poulet. Puis ils ont mis ça, je pense, elle dit, pendant une semaine, ils ont eu du poulet restant. Elle dit, mais le monde venait s'en chercher. Puis ça se multipliait. Donc, le don d'opérer des miracles. Il y a toutes sortes d'autres miracles aussi, des miracles créatifs, là, quand une personne a, mettons, perdu l'oreille ou quelque chose, on prie, puis là, on voit l'oreille qui repousse. Ou on a vu sur une vidéo, on était en Alberta, il y avait un évangéliste qui était là, puis il a montré une vidéo d'un enfant pour qui il a prié en Afrique, qui avait comme la tête toute déformée, puis il a prié, puis on voit sur la caméra la tête toute se repositionner. C'était créatif, là, c'était comme, ça c'est un miracle, c'est plus que juste une guérison. Quand une jambe pousse, hein, la personne n'avait pas de jambe, mais la jambe pousse, ça, c'est un miracle, ce n'est pas une guérison. Mais c'est une guérison miraculeuse. Vous comprenez? Et souvent, une chose ici, on ne peut pas séparer les dons nécessairement et dire, ça, c'est juste un don, une parole de sagesse. Souvent, là, ça peut être une parole de sagesse et de connaissance en même temps. Parce que les dons, ils travaillent ensemble. Hein, c'est comme, on ne peut pas juste couper ça comme, c'est comme ci, c'est comme ça. Le Saint-Esprit se sert de tous ces dons-là pour ses buts. Et la prophétie, vous savez certainement c'est quoi, on entend souvent parler des paroles prophétiques. Moi, concernant mon appel, qu'est-ce qui m'a vraiment touché, la prophétie qui m'a touché le plus, c'était comme, d'une certaine façon, une parole prophétique avec une parole de connaissance. Il y avait un prédicateur qui était de la Caroline du Sud, qui était dans une réunion, et puis il m'appelle, il dit, Joël, il dit, Dieu m'a réveillé à 4 heures cette nuit, il voulait que je te dise que tu es appelé au ministère, d'arrêter de douter ton appel, mais Dieu t'appelle. Et la veille, j'avais dit à Mathilde, moi, je crois que toutes les histoires que j'ai vécues en Australie, tout ça, toutes les confirmations ou les paroles que j'avais reçues, j'ai dit, j'ai peur que c'est juste une coïncidence. Mais le lendemain, la personne donne une parole, le pasteur donne une parole prophétique qui est en fait une parole de connaissance à mon sujet. Puis là, ça m'a guidé dans la bonne direction pour ma vie. Donc, il y a toutes sortes de paroles comme ça. Et le discernement des esprits, c'est quoi ça, le don des discernements des esprits? Bien, c'est l'habilité surnaturelle que tu puisses voir sur quelqu'un quelque chose. Et souvent, ceux qui pensent qu'ils ont le don du discernement des esprits, ils deviennent genre les détectives de Dieu. Ils disent, toi, tu as tel démon. Puis là, ils font tout. Puis des chrétiens comme ça, des fois, c'est comme, non, c'est pas ça. Dieu ne nous appelle pas à devenir des inspecteurs du troupeau. Hein. C'est pas, on ne devient pas des inspecteurs. Sauf Dieu peut vous donner à un certain moment. Quand Dieu vous donne un discernement sur quelqu'un, puis c'est pour aider la personne. C'est pas pour venir dire, tu as ça dans ta vie. Non, c'est au contraire, c'est dire, le Seigneur m'a montré des choses, est-ce que je peux prier avec toi, ou est-ce que je peux t'aider? C'est toujours dans le but d'édifier la personne. Tous les dons du Saint-Esprit, il faut qu'ils travaillent toujours dans l'amour, sinon c'est pas dans l'amour, c'est pas de Dieu. Donc, on marche toujours dans l'amour, puis c'est toujours pour bâtir la personne, pour qu'elle puisse découvrir des choses nouvelles en Dieu. Et je me souviens, j'étais assis avec un frère dans son auto. J'étais assez jeune, j'étais adolescent. Le frère, il voit quelqu'un marcher sur la rue. Il dit, oh wow, il dit, cette personne-là là, est vraiment dans la sorcellerie. Puis là, on continue à voir la personne. Puis la personne avait l'air normale. Tu sais, il n'y avait rien de spécial. Il continue à marcher, marcher. Puis après, quand je vois en arrière de son dos, il avait un gros logo là, satanique sur son dos. Puis c'était genre le pentagramme, là, l'étoile satanique. Puis j'ai dit, comment tu as su ça? Tu sais, c'est comme on ne pouvait même pas voir son dos là avant. Puis c'était le discernement des esprits. Okay, donc, c'est un don que Dieu donne. Et puis, quand on a ça, bien là, on peut aller vers la personne puis prier. Quand Dieu nous montre une chose, quand Dieu révèle quelque chose, c'est pour un but. C'est pas juste pour dire, « Aïe, aïe, c'est cool, je savais avant le temps. » Non, mais c'est comme, je vais me servir de ça pour aller voir la personne puis la guider au Seigneur. C'est ça qu'on devrait faire. Et la diversité des langues, comme je vous ai raconté tantôt, quand j'étais aux États-Unis, le Seigneur s'est révélé à moi puis m'a montré vraiment que les langues étaient pour aujourd'hui. Donc, on a parlé. Et l'interprétation des langues, le message qui avait été prononcé en français dans une réunion américaine en anglais, avait été interprété en français. En anglais, plutôt. Et une chose qu'on doit comprendre, l'interprétation des langues, ce n'est pas une traduction des langues. Des fois, les gens vont parler comme ça, ils vont dire, « Ah, mais la personne a traduit. » Ce n'est pas une traduction, c'est l'interprétation des langues. Une personne peut prier en langue, là, 2 minutes, admettons, super fort pendant 2 minutes, et là, la personne va interpréter ça, ça va prendre 30 secondes. Ce n'est pas une traduction, c'est une interprétation que l'Esprit de Dieu donne à ce que la personne a donné. Puis peut-être qu'est-ce que la personne a donné, c'était beaucoup plus long dans le monde spirituel. Nous, on n'a pas besoin de tout entendre ça, mais qu'est-ce qu'on a besoin, c'est l'interprétation de ce qui a été donné pour nous. Puis des fois, c'est 30 secondes. Okay? Donc, c'est différent. Ça, c'est les dons du Saint-Esprit. Amen. À date, est-ce que vous croyez ce que je vous ai dit? Amen. C'est assez simple, hein, les dons du Saint-Esprit. Puis quand Dieu nous donne ces choses-là, c'est toujours pour les autres. Mais ça donne qu'on peut en bénéficier nous autres aussi. Comme les langues, ça dit, vous vous édifiez vous autres même. Pourquoi est-ce qu'on voudrait passer à côté de ça? La seule raison, c'est à cause de la tradition, ok? À cause, on était mal enseigné. Ça, c'est des choses qui peuvent nous empêcher. Ou c'est par orgueil, on est religieux, puis on veut pas avoir l'opinion des gens. Là. C'est comme on a peur, qu'est-ce que les gens vont dire à notre sujet. Je me souviens, juste récemment, mon épouse a rencontré des sœurs d'une autre église, puis ils ont dit, « Ah, toi, tu viens de quelle sorte d'église? » Puis là, Mathilde, elle dit, « Bien, tu es plein évangile, là. C'est comme nous autres, on n'a pas de titre officiel, mais tu es plein évangile. » Elle dit, « On croit toute la Bible. Nous autres, d'un couvercle à l'autre, là, on croit toute la Bible au complet. » « Ah, parler en langue, là, puis le monde tombe à terre, là? » Elle dit, « Ouais, c'est ça. » C'est comme... Mais des fois, le monde veut nous mettre comme dans une boîte, hein? C'est comme, « OK. » Puis là... Mais ces gens-là qui vont des fois même trouver ça comme, vous croyez dans tout ça, mais ils vont célébrer le fruit du ministère de ceux qui sont dans ces églises-là, par exemple. C'est quoi qui est numéro un dans le monde chrétien présentement, dans la musique? Hillsong. Vous connaissez la musique Hillsong? La musique Hillsong, c'est d'une église pentecôtiste de l'Australie. C'est une église, les gens là-bas là, sont remplis d'esprit, c'est tous des gens qui prient en langue, puis... C'est dans le surnaturel que ça se passe et Dieu a béni ce ministère-là puis ça a fait le tour du monde. Et là, on va aller dans des églises où sont contre qu'est-ce que fait le fruit. Je ne sais pas ce que vous comprenez. Sont contre qu'est-ce que donner naissance à ce ministère-là. Comprenez-vous? C'est bizarre. On va se dire, ils sont contre toutes les choses qui peuvent leur donner qu'est-ce qu'ils apprécient finalement. Et il y a ça, tu sais. Et même comme Joyce Meyer, il y a beaucoup de gens dans toutes les dénominations qui l'aiment beaucoup, elle, parce qu'elle donne de l'enseignement pratique. Mais elle, son ministère, là, ça l'a pris naissance parce qu'elle priait en langue, elle priait en esprit, puis elle priait pour que Dieu fasse tomber les murs, puis c'est une guerrière dans la prière. Puis c'est lorsque ma femme a été remplie d'esprit. Et pourtant, il y a des gens qui ne croient pas parler en langue, qui vont l'aimer au bout. Et elle, quand elle s'est mise à parler en langue, elle a perdu tous ses amis. Savez-vous ça? C'est ça le prix qu'elle a payé. Parce que les gens de son organisation, de sa dénomination plutôt, ils ont dit, t'es tombé sa tête. Et c'est vrai, elle a perdu toutes ses amies, mais elle s'est dit, sais-tu, si ça m'arrive, elle dit à quelque part, c'est parce que Dieu veut m'emmener plus loin, puis ça me limiterait, ça m'empêcherait d'aller de l'avant. Ça fait que faut que Dieu soit numéro un dans nos vies, puis qu'on dise, Seigneur, moi je veux tout ce que tu as en réserve pour moi. S'il y a des choses que tu dois changer en dedans de moi pour que je reçoive la plénitude de ce que tu veux m'offrir, change-moi, Seigneur Dieu, change-moi, fais le ménage en moi. Puis, vous savez, quand Dieu donne un don, là, c'est pas poussé par l'homme, c'est pas poussé par nous autres. Il faut que ça vienne de votre cœur. C'est comme, Seigneur, j'en veux plus de toi. Puis si vous avez ce désir-là pour plus de Dieu, Dieu va vous en donner. Puis peut-être que c'est pas aujourd'hui, peut-être c'est demain. Puis c'est pas demain, c'est peut-être après-demain. Mais si vous avez le désir, bien au moins vous avez ça. Vous avez le désir pour plus de Dieu. Puis Dieu peut vous en donner plus si vous le désirez. Mais si vous vous dites, j'en veux pas, Dieu va vous respecter. Dieu est le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Il va pas vous dire, t'es obligé de parler en langue. Il faut que ça vienne de nous, qu'on a ce désir-là. Puis quand on a ça après, c'est pas la fin. Il y a des gens aussi qui ont dit, ah ben moi, je crois pas là-dedans parce que telle personne a prié en langue, mais regarde qu'est-ce qu'ils ont fait après. Regarde qu'ils ont vécu dans le péché, ils ont tombé, ils ont fait ci. Ou... Mais là, on commence à examiner les fruits, puis on se dit, ils sont pas meilleurs que nous autres, finalement, on veut pas ça. Mais le parler en langue, c'est juste le début, c'est pas l'accomplissement. C'est pas l'accomplissement de la vie chrétienne, puis tada, Dieu vient de mettre son sceau sur vous, puis là, vous êtes parfait, puis là, finalement, là, vous n'avez plus rien à apprendre. Non, c'est le début de votre vie dans le surnaturel. C'est juste le premier pas. Puis là, vous priez, puis là, après, vous rentrez plus loin dans les choses de l'esprit. C'est vraiment ça. Ça fait que là, après, on peut parler avec des gens, puis dire, ben oui, telle personne a fait ça. Mais ce n'est pas la faute du Saint-Esprit. C'est la personne a décidé par après d'aller dans la chair. Hein, voyez-vous, c'est toute une chose de discerner ces choses-là. Les dons de Dieu sont parfaits. Les canaux, par exemple, nous autres, les êtres humains, nous autres, on est imparfaits. Ça ne reflète pas sur le don. Dieu, tout ce que Dieu fait, c'est toujours bon, toujours parfait. C'est nous autres, des fois, qu'on est un mauvais témoignage. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est dire, non, moi, Seigneur, fais le ménage en moi. Sers-toi de moi parfaitement. Remplis-moi ton esprit. Je veux prier tes prières. Je veux prier les mystères du ciel pour que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Mais tout ça commence, premièrement, quand on donne notre vie à Jésus-Christ. Vous savez, dans Éphésiens 2, 8 à 10, ça dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Tout ce que Dieu nous donne, c'est toujours par la foi. C'est par la grâce. C'est une faveur que Dieu nous donne. Il dit, je veux vous avoir avec moi au ciel. Je veux vous donner la vie éternelle. Je veux vous donner tous les dons du Saint-Esprit. Je veux vous donner toutes les promesses de Dieu, la guérison, le salut, les ressources financières pour votre vie. Je veux prendre soin de vous. Je veux tout vous donner. Mais la première chose où on doit donner accès à Dieu, c'est dans notre cœur. Puis tu dis, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie, Seigneur, prends-la toute ma vie. Puis comme vous savez, Gloria Copeland, elle ne savait même pas, mais elle, quand elle a été sauvée, elle passait, je pense, sa balayeuse, puis elle dit, Seigneur, prends ma vie, fais de quoi avec. Et là, son ministère, après, avec son mari, c'est international. Parce que Dieu n'est pas religieux. Dieu n'est pas religieux, Dieu, il voit nos cœurs. Puis quand on dit, Seigneur, moi, je crois qu'est-ce qui est écrit. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Je crois tout ça. Je crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Puis à cause que Jésus a été victorieux sur la mort, moi aussi, je peux être victorieux. Moi aussi, je peux te donner ma vie et avoir l'assurance que si je mourais aujourd'hui, je m'en irais au ciel. Aujourd'hui, pendant qu'on penche les têtes, je vais vous inviter à pencher vos têtes. Fermez vos yeux. Je vais juste demander la question. Si vous mourrez aujourd'hui, seriez-vous à 100% certain de vous en aller au ciel? Si la réponse est « je ne suis pas sûr », peut-être que oui, tu sais, je ne suis pas une personne typée que ça, mais si vous n'êtes pas sûr, Dieu veut aujourd'hui que vous lui donnez votre vie. Ce n'est pas une question si on est bon ou pas bon, ce n'est pas ça la question. C'est une question, on n'est pas parfait. Puis pour aller au ciel, il faut être parfait à 100%. Aujourd'hui, j'aimerais ça, tous ceux qui veulent dire à Jésus « moi, je veux te donner ma vie au complet », de simplement lever la main là où vous êtes. Et là, Dieu va prendre votre vie et Dieu va faire de votre vie un chef-d'œuvre. Il n'y a personne qui regarde présentement. Il y a juste Dieu qui regarde. Puis on va faire ça ensemble. On va juste prier ensemble pour donner notre vie à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut lever la main? Amen. On va prier ensemble. Je vais juste vous demander de répéter après moi. Père éternel, aujourd'hui, je veux te donner ma vie. Je te demande de me pardonner de tous mes péchés, de me laver dans ton sang, de me purifier. Merci de me donner une nouvelle vie. J'ai pris au nom de Jésus. Amen. Amen. Avec cette prière-là, c'est aussi simple. On passe de la mort à la vie. On a une place réservée au ciel avec notre nom dessus. C'est merveilleux. Amen. C'est simple. La vie chrétienne, c'est simple. C'est une question de foi. C'est une question d'un don de la grâce que Dieu nous a donnée. Et puis pour ceux de la radio, si vous avez fait cette prière avec nous, on veut vous inviter à nous contacter en écrivant à québec@joelspinks.com. On va entendre parler de vous. Est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement au Seigneur aujourd'hui? Amen. Dieu est bon. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ça fait qu'on a parlé des dons du Saint-Esprit. Et si vous avez soif pour plus de Dieu, pendant qu'on prie, vous pouvez venir en avant, puis je peux demander à mon épouse de venir aussi, puis on va prier pour vous, ceux qui veulent recevoir. Oh, je peux te laisser. Ceux qui veulent recevoir la plénitude, puis ceux qui l'ont déjà reçu la plénitude, là, Mathilde et moi, on va prier pour vous. Puis si vous voulez plus, on va prier pour vous. Si vous l'avez déjà reçu, plutôt, priez en harmonie avec nous. Amen. Puis vous louerez le Seigneur, on va prier avec vous, puis on va s'attendre à des grandes choses de Dieu.
Amen. Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.